Pour aller plus loin, votre podcast science, entrepreneuriat, high-tech, horreur, pop culture, enfin, un peu tout, quoi. Pour aller plus loin, présenté par Théodore, c'est maintenant.
Bonjour et bienvenue dans Pour aller plus loin, votre émission multi-sujets où on aborde beaucoup, beaucoup de sujets, l'espace, la musique, la pop culture et beaucoup d'autres. Et aujourd'hui, pour parler une nouvelle fois d'immobilier, je reçois Hugo Zapata. Bonjour à toi Hugo, comment ça va ?
Salut, bah ça va super et toi ?
Bah bien, après une nouvelle fois, et oui, on dit une nouvelle fois parce qu'on a déjà abordé ce sujet qui est l'immobilier, mais on pourra en parler, je pense, pendant des heures. Hein. On rappelle que c'est ton métier, hein, tout simplement. Est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi, quand on dit immobilier, à quoi on relie Hugo Zapata et immobilier ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie et tous les jours ?
Yes, moi du coup, l'immobilier, ça fait... C'est une partie de ce que je fais toujours puisque donc je suis gestionnaire de patrimoine et donc dans la gestion de patrimoine, il y a une grosse partie majoritairement d'immobilier avec d'autres parties comme les placements financiers, l'optimisation fiscale et la réduction d'impôts, les conseils juridiques et aussi notamment la succession et la transmission qui est très très important puisque se constituer un patrimoine c'est bien mais le transmettre c'est mieux.
Voilà, c'est bien de faire tous les maillons de la chaîne et ne pas s'arrêter à un seul.
Yes, c'est exactement ça. Et on oublie souvent la succession. Et c'est pour ça que malheureusement, on va, entre guillemets, si je peux dire l'expression, se saigner toute sa vie pour construire quelque chose. Et au final, les enfants vont récupérer, mais ils vont se faire assassiner par...
Ils vont récupérer les miettes.
Ouais, voilà, c'est un peu ça, ouais. Les miettes du gâteau.
C'est ça, parce qu'il y aura l'État ou autre qui se sera servi avant. Mais aujourd'hui, on va continuer sur l'immobilier. On a déjà fait une partie où on a fait une petite introduction à l'immobilier, immobilier de résidence, locatif, les stratégies, comment décrocher un prêt et comment on peut... Qu'est-ce qu'une bonne affaire ? Comment on peut trouver une bonne affaire et comment on peut définir que c'en est une ? On avait dit que ça pouvait exister, mais c'était un peu à nous de jouer pour la créer. En tout cas, c'était un mix entre un peu de chance et à nous aussi de créer cette chance, justement, sur une bonne affaire.
La bonne affaire, comme je l'avais dit, on peut le récapituler, faire un petit résumé. C'est assez rare qu'il y en ait une qui nous tombe dans les mains comme ça. Faut savoir que il y a beaucoup de sites. Bon, les principaux, c'est Le Bon Coin, Se Loger. Si on fait déjà ces deux sites, et encore majoritairement sur Se Loger, on retrouve des doublons de Le Bon Coin. Après, oui. Les personnes peuvent, si vraiment elles sont intéressées, fouiller. Mais moi, j'utilise personnellement que Le Bon Coin. Il y a énormément d'annonces. Et faut dire une chose, les bonnes affaires déjà, il y en a très peu qui tombent. Et quand elles tombent, elles partent très vite. Donc c'est assez rare. C'est pour ça que je disais dans l'ancien épisode. Que la bonne affaire, souvent, c'est à nous de la créer, c'est-à-dire en changeant les pièces de l'appartement, en rajoutant une chambre pour de la colocation, en faisant une division. S'il y a une grande surface, par exemple, un appartement de 100 mètres carrés, on fait deux appartements de 50 mètres carrés, etc. Quoi. La bonne affaire se crée la plupart du temps. Mais il peut y avoir aussi de la bonne affaire, comme je disais, avec tout ce qui est héritage et succession, ou des personnes qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'argent rapidement et qui, du coup, vont vendre leurs biens expressément et on va avoir des grosses marges de négociation.
Voilà, donc ça c'est des sujets, des choses qu'on a abordées. Vous pouvez aller déjà réécouter l'épisode, vous cherchez, si vous voulez chercher tous les épisodes, les émissions de Pour aller plus loin, vous tapez podcast Pour aller plus loin et plus, le symbole plus pour le plus loin sur Google et vous tomberez un petit peu sur plein d'émissions sur différents sujets avec des experts aussi divers que variés. Aujourd'hui, on a encore d'autres choses à aborder autour de l'immobilier et je propose qu'on reprenne notre petit cheminement et on en était arrivé dans notre histoire qu'est l'immobilier, dans notre livre de l'immobilier sur les dépenses à prévoir autour de l'achat d'un bien.
Yes, alors du coup, il y a beaucoup de dépenses à prévoir. Souvent, on oublie, on n'y pense pas. Donc les principales dépenses auxquelles on va penser tout de suite, c'est la taxe foncière et les charges de copropriété. Donc ça, c'est vraiment très très important déjà de les demander dans un premier temps. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller sur Le Bon Coin par exemple. Je vais reprendre comme si je cherchais une affaire, on va dire, sur Le Bon Coin.
Oui.
J'ai trouvé un appartement qui m'intéresse. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais regarder le prix, je vais calculer à peu près la mensualité que ça va me coûter, donc c'est-à-dire le crédit que je vais devoir rembourser tous les mois en fonction du nombre d'années que je souhaite, c'est-à-dire là par exemple je vais me dire je vais prendre un prêt sur 20 ans, je vais calculer ma mensualité, boum j'ai ma mensualité, ok je sais que je paye tant. Maintenant, je vais contacter le propriétaire, si ce n'est pas marqué sur l'annonce Le Bon Coin, bien évidemment, et je vais lui demander la taxe foncière que je vais mensualiser, donc divisée par 12, et je vais la rajouter à ma mensualité de prêt, plus les charges de copropriété que je vais mensualiser également si c'est payable au trimestre. Voilà, des fois, il y a plusieurs modes de paiement. Donc, on mensualise tout et on additionne. Au final, on a déjà là un ordre d'idée, on va dire. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a
C'est
beaucoup de
déjà la
cafés.
base et c'est ce que les gens en général pensent, mais il y a d'autres choses auxquelles on ne pense pas.
Oui, bien sûr. En fait, les personnes, elles commencent par faire ça, la totalité, hein. Mais ça ne s'arrête pas du tout à ça. C'est-à-dire que il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'une fois qu'on a ça y est, on fait cette soustraction, c'est-à-dire maintenant on prend le loyer et on enlève donc notre mensualité de crédit, la taxe foncière mensualisée, les charges de copropriété, et boum, enfin, ça nous donne ce qui nous reste dans la poche. Mais en fait, pas du tout. Il y a beaucoup de choses à prévoir encore. Déjà, il y a une chose qui est à prévoir, c'est l'imposition. Ça, c'est hyper important de le prévoir avant d'acheter, parce qu'après que c'est acheté, c'est trop tard. Et clairement, donc on va en parler juste après des différents régimes qui sont possibles. Le fait de se tromper dans un régime à l'achat, ça peut faire basculer en fait un investissement, faire qu'un investissement passe de bon à mauvais, tout simplement. Donc on va voir juste après les différents
Oui,
régimes en
y a un vrai
fonction
travail à
des
faire avant. C'est
stratégies.
pas juste j'ai de l'argent, j'ai un apport, je vais voir la banque, j'y vais. On avait parlé de
Voilà.
comment avoir un prêt. Ça se travaille. En soi, toi, c'est ton travail qui est dans l'immobilier, mais pour les gens qui achètent, ça devient un travail, acheter une maison.
Bien sûr, alors une maison encore ça gère, mais les personnes qui vont avoir beaucoup de biens, ça dépend vraiment de plein de choses. On va parler, je voulais faire un petit tour qu'on n'avait pas eu le temps de faire dans l'ancien épisode sur les différentes stratégies qu'on va pouvoir avoir. Donc dans l'immobilier, juste, je me permets du coup de rajouter ce petit point, on va voir tout ce qui est donc place de parking, garage. Donc ça, c'est un investissement qui n'est pas forcément ultra rentable, mais qui est plutôt sécurisé, dans le sens où la loi est du côté du propriétaire, contrairement aux appartements. C'est-à-dire que si votre locataire ne paie pas, vous pouvez le mettre dehors en 48 heures maximum.
Vu que ce n'est
Donc
pas une
ça, c'est très...
habitation, il n'y a pas ce principe de foutre la
Ouais,
personne dehors dans le froid, enfin, ce principe-là,
on va en
quoi.
venir juste après. Du coup, donc ça, c'est le gros point positif des parkings. Également, vu que c'est un petit loyer, généralement entre 35 et 70, 80, des fois peut-être 100, 120 si vous achetez un parking à Paris, mais bon, c'est ce qu'il y a vraiment de moins rentable. Là, globalement, vu que c'est des petites mensualités, on a des taux d'impayés qui sont très faibles. Donc ça, c'est également un point positif. L'inconvénient, c'est que pour trouver une bonne affaire, c'est-à-dire quelque chose qui va pouvoir nous générer un peu d'argent tous les mois, ça va être compliqué. Le parking, on va juste rembourser le crédit à la limite et voilà, c'est fini. Mais le gros, gros point positif également des parkings, c'est qu'il n'y aura pas de travaux.
Oui.
Ensuite, on va avoir d'autres stratégies, ou alors très peu de travaux, hein, mais globalement, ça coûte, le budget travaux est très très faible pour un parking ou un garage. Après, on va voir donc, du côté des appartements, donc là, c'est ce que tu disais. Côté appartement, bah, il faut savoir que la loi est du côté des locataires, donc si jamais il y a un souci avec votre locataire, pour le virer, c'est un enfer. Ça peut prendre plusieurs jours, mois, enfin, jours non, plusieurs mois, voire plusieurs années
Selon
pour
la période
certains.
de l'année aussi, ça peut être plus ou moins compliqué.
Bah, hormis ça, parce que oui, il y a la trêve hivernale, on ne peut pas virer quelqu'un
Au mois de décembre.
sur la. Voilà. Alors, je ne sais plus, chaque année, elle est redéfinie, il me semble, mais c'est quelque chose comme de novembre à mars. Enfin, c'est quand même plusieurs mois, c'est pas juste décembre. Il y a 3 ou 4 mois, je crois, ou même 5. Enfin, c'est une longue trêve hivernale. Donc, déjà, durant cette trêve, on oublie de mettre quelqu'un à la porte. Et puis, même, globalement, pour mettre quelqu'un à la porte, ça va demander beaucoup d'argent, des procédures, etc. Donc c'est pour ça, les appartements, c'est un peu plus rentable, mais il y a ce point, il y a ce point noir, on va dire, donc d'où la nécessité de bien choisir ses locataires.
Et dans les
Donc
locations, il y a aussi les locations de vacances où on sait que la personne
ouais,
arrive de
alors
tel jour à tel jour, qui peut prévoir moins de
là,
problèmes sur le long terme.
ouais. Donc là, on va y venir. On va voir tout ce qui est donc dans les locations. On va voir la location meublée. Donc là, le principe, vous meublez l'appartement et vous le louez à quelqu'un. La personne, elle vient juste avec ses valises, elle pose ses vêtements
Un peu comme
et
des
elle a tout dans
étudiants, par exemple.
l'appartement. Exactement. Donc ça permet d'avoir un loyer un peu plus cher qu'une location vide, qu'on va parler après. Mais l'inconvénient dans ce type de location, c'est que bah, dès qu'il y aura un problème, on va vous appeler. Le micro ne marche plus, Le levier est bouché. Enfin, non, l'évier est bouché, ça à la limite, non, parce que même dans le vide, il y a des éviers, donc il y a un risque d'avoir des éviers bouchés.
Mais appareil électrique et le frigo, ouais, voilà, ou autre, quoi.
Il va y avoir tout l'électroménager dans le meublé, donc dès qu'il va y avoir une panne, on va vous appeler. Et puis, bah, c'est quelque chose qu'il faut prévoir, mine de rien, dans le budget, puisqu'on sait que maintenant, il faut dire ce qu'est électroménager de moins en moins résistant. Un frigo, ça dépend les marques, ça dépend la chance aussi un petit peu, mais ça peut durer 3, 4, 5 ans. Donc, il faut vous dire que tous les 3, 4, 5 ans, vous allez devoir changer une bonne partie de l'électroménager, peut-être la télé, etc. Donc, le loyer est plus cher, mais en contrepartie, il faut mettre plus d'argent de côté pour avoir une sorte de trésorerie de sécurité pour pouvoir faire face aux changements d'électroménager.
Ça, et du temps aussi à attribuer aux demandes du locataire aussi.
Oui, alors après, il appelle pas non plus tous les jours. Enfin, sinon, c'est que c'est vraiment un locataire chiant. Mais normalement, il appelle pas toujours. Mais potentiellement, il peut appeler plus souvent qu'une location vide. Donc, du coup, il y a la location meublée. Ensuite, il y a la location vide, c'est-à-dire une location nue, que ça s'appelle plus précisément. Donc là, vous allez louer un appartement nu. Il va y avoir juste l'évier, quoi, la douche, le WC, comme d'hab. Mais après, le locataire vient avec ses affaires personnelles, il vient avec sa télé, son frigo, etc. Donc là, l'inconvénient, c'est que le loyer est un peu moins cher, mais l'avantage, c'est que bah, vous n'aurez pas ce problème d'électroménager ou de mobilier qui va s'user, quoi. Tout sera au locataire. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est la colocation. Donc là, c'est pareil, vous allez devoir meubler un appartement. Et le principe, c'est que vous allez louer la chambre à quelqu'un, un étudiant ou même des fois des jeunes actifs, ou même maintenant, on sait que ça fonctionne pas trop mal, la colocation pour seniors, c'est en train de se développer. Donc là, le principe, c'est vous louer une chambre. Et comme si on prend l'exemple d'un T5, donc avec 4 chambres, bah vous avez 4 loyers. Par exemple, un T5, vous l'aurez loué à une famille peut-être 750 € par mois. Bah avec la colocation, vous allez louer peut-être 300 € la chambre. Donc, ce qui fait que x4, vous allez faire 1 200 € de loyer. Donc, ça permet d'avoir un loyer plus conséquent qui rentre. L'inconvénient, c'est que ça demande souvent plus de gestion, parce que la colocation, c'est pas quelque chose qui est durable dans le temps. C'est-à-dire que les personnes qui sont en colocation, elles restent rarement très longtemps. Elles vont souvent changer, que ce soit des étudiants, des seniors ou des jeunes actifs.
Il y a plus de gestion, puisque s'il y a 4 ou 5 personnes, il y a 4 ou 5 dossiers, 4 ou 5 profils, 4 ou 5 problèmes potentiellement.
Exactement.
Par rapport à une seule famille où on a un seul interlocuteur.
T'as tout compris. Déjà, il y a 4 interlocuteurs. Si on reprend l'exemple du T5, t'as plus de dossiers, plus de papiers. Et même, quand il y a le turnover, à chaque fois que quelqu'un s'en va, ça fait encore des recherches à faire, etc. Donc voilà, c'est...
C'est à prendre en compte.
Ça rapporte plus, mais il y a aussi ses inconvénients, donc c'est à prendre en compte. Après, on va voir tout ce qui est la courte durée. Donc là, ça va être Airbnb, comme tu disais, location saisonnière. J'arrive tel jour, je repars tel jour. Que ce soit un appartement de vacances, donc à la mer ou au ski, ou même dans certaines villes, un appartement classique à l'année. La location courte durée, c'est quelque chose qui s'est développé pas mal ces derniers temps et qui fonctionne vraiment bien. C'est clairement la stratégie qui va apporter le plus de rentabilité, de loin, devant toutes les autres stratégies en immobilier. Mais c'est aussi celle qui va demander le plus de temps, ou alors il va falloir déléguer la gestion, mais donc ça se paye, donc il y aura de la rentabilité en moins. Ça va demander beaucoup de temps, puisqu'il va falloir gérer, si vous voulez tout faire vous-même, il va falloir faire le ménage, gérer l'annonce sur Airbnb et
on
tout.
On voit beaucoup, beaucoup de retraités, etc., qui s'occupent de ça pour du coup avoir un petit peu plus avec leur retraite. Et vu qu'ils n'ont plus leur boulot toute la journée, ils s'occupent aussi de cette manière. Moi, en tout cas, quand j'ai loué, ça a été souvent des retraités qui avaient ce complément de salaire.
Yes, bien évidemment, les retraités, ils peuvent s'occuper de ça. Après, il n'y a pas que eux, il y a souvent des personnes qui créent ce qu'on appelle des conciergeries et qui vont gérer justement ces biens sur Airbnb, ils vont s'occuper de tout, de déléguer. Enfin, du coup, on va leur déléguer la gestion de l'annonce, les réservations, on va leur déléguer tout ce qui est le ménage, etc. Le seul problème de la location courte durée, donc qu'on le gère nous ou qu'on le délègue, c'est que ça demande aussi un budget plus conséquent, puisque encore plus que la location meublée, le matériel se dégrade encore plus vite.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de monde à s'enchaîner, du coup.
Exactement. Et puis, la plupart du temps, les personnes prennent moins soin du matériel, puisqu'ils sont là quelques jours. Ils prennent pas en considération. Voilà. C'est pas une location meublée classique, Si on parle d'un étudiant, par exemple, qui va rester peut-être 3 à 4 ans dans le logement, ok, il y a l'usure du matériel, mais c'est quand même son logement, donc il va quand même faire un peu plus attention. Bien que souvent on ait des locataires qui ne font pas attention, la plupart du temps, quand c'est son logement, on fait un peu attention. La courte durée, on est là pour quelques nuits, quelques jours, allez, quelques semaines à la limite. Donc la plupart du temps, les personnes, elles font moins attention.
Mais elles ont moins
Donc
le temps de détériorer si on part ce principe-là. Donc en fait, c'est une courbe, ça dépend comment on se place, quoi.
bah non, vraiment, je dirais que honnêtement, ça c'est quelque chose à prendre en compte. Si vous faites de la courte durée, il faut prévoir le budget pour le remplacement du matériel, puisqu'il va y avoir des vols, des casses, etc. Bien que il y ait des assurances avec Airbnb et les autres sites de location, mais c'est quand même à prévoir en compte. Il faut quand même prévoir le budget. C'est-à-dire que tous les mois, vous faites de l'argent, c'est bien, mais il faut quand même mettre de l'argent de côté parce que quand la facture elle arrive, si un jour il y a tout qui lâche en même temps, bah faut tout changer. Et si vous n'avez pas mis les sous de côté, bah là ça peut être problématique.
C'est un point à prendre en compte.
Yes, donc on a une autre stratégie encore, ça va être tout ce qui est immeuble de rapport. Donc là, le principe, c'est que vous allez acheter un immeuble complet et bah, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir acheter moins cher au mètre carré, vu que c'est un achat de gros. Bah, comme une société, par exemple, un magasin achète un stock de vêtements, s'il en achète énormément, bah, il va tirer les prix très bas. Alors que s'il en achète juste un, il l'aura plus cher. C'est le même principe, bah, là, vous achetez plusieurs appartements. Donc vous allez avoir un prix au mètre carré qui sera bien moins cher. L'inconvénient, c'est que bah, vous centralisez tout votre patrimoine au même endroit. Vous avez par exemple un immeuble avec 4 appartements, bah, vous avez 4 appartements au même endroit. Donc si ça ne marche pas, bah, vous avez 4 appartements où ça ne marche pas. Un autre inconvénient, c'est que vous êtes tout seul à bord. Enfin, c'est un inconvénient et un avantage. Vous êtes tout seul à bord pour décider des travaux. Donc personne ne va vous dire, il faut refaire le toit, il faut refaire la façade. C'est vous qui
Vous êtes
décidez.
vous-même la copropriété.
Exactement. L'inconvénient, c'est que du coup, quand il faut faire des travaux, bah, on est seul à devoir les assumer. Donc le budget, faut qu'il suive. Donc voilà, c'est une stratégie qui peut être très puissante également, les immeubles de rapport, mais il faut vraiment la maîtriser. Et moi, je ne conseille pas de commencer par ceci. D'abord, se faire la main sur un petit appartement, un studio, un T2, un T3, allez, pour faire de la location nue, de la meublée, de la colocation à la limite. Pourquoi pas de la courte durée? Et encore, la courte durée, c'est compliqué de commencer par ça, il faut être bien formé. Mais voilà, commencez par un petit truc, parce qu'en immobilier, les erreurs, ça coûte vite cher. Donc pour se faire la main, et ensuite, pourquoi pas développer une stratégie sur des immeubles de rapport, puisque ça permet d'aller plus vite, d'acheter plus d'appartements d'un coup, et donc de développer son patrimoine plus rapidement.
Et surtout, là, on donne plein d'exemples, mais il n'y a jamais un exemple ultime. C'est chacun a des
Voilà.
inconvénients, d'autres des avantages. Et les avantages, selon les années, peuvent changer, changent selon les personnes. Voilà, tout peut bien se passer, comme vous pouvez avoir que des emmerdes. C'est la vie. Ça, voilà, il n'y a pas de recette miracle. On le dit, de toute façon, on donne juste, c'est des points pour se dire qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui en moyenne se fait mieux selon bah, le temps que vous avez, l'argent que vous avez, si vous êtes plus débutant dans le milieu ou pas, selon la ville où vous êtes, ou en tout cas où vous voulez investir. Il y a plein de choses qui varient.
Voilà, donc ça c'est vrai que c'est très important de le souligner. Chaque stratégie a ses avantages et chaque stratégie a ses inconvénients. Il n'y en a pas forcément une qui est meilleure que l'autre. Il faut juste que ça corresponde à ses objectifs. Également, tu l'as dit, c'est très important, son temps de gestion. Si quelqu'un n'a pas le temps, bah, autant qu'il s'oriente vers de la location nue ou meublée longue durée classique. Si quelqu'un a beaucoup de temps devant lui, bah là, il va peut-être pouvoir faire de la colocation ou de la location courte durée. Voilà. Mais il faut vraiment prendre en compte tous les paramètres. C'est hyper important. On va rajouter du coup quelques autres stratégies comme l'achat-revente. Donc là, le principe, ça va être d'acheter un bien et de le revendre pour faire une plus-value. Le point positif, c'est que ça va permettre de générer du cash rapidement. Il va y avoir une petite technique pour exonérer la plus-value si vous la passez en résidence principale. Et il peut y avoir une négociation plus importante à l'achat, souvent parce que le bien nécessite des travaux, il va falloir faire des travaux. Donc là, par contre, il faut s'y connaître. L'achat-revente, c'est une stratégie que je ne conseille pas à un débutant, ni même quelqu'un qui a juste fait un appartement. Il faut vraiment de l'expérience. Faut s'y connaître en travaux
Et même,
parce que
voilà,
ça peut.
c'est ça, quelqu'un qui est. On a beaucoup qui travaillent dans le bâtiment et qui, du coup, pour eux, bah, c'est du pain béni puisque c'est eux-mêmes qui vont faire les travaux. Et du coup, ça, ou dans votre famille, si des gens ont le temps pour vous aider là-dessus et qui s'y connaissent, c'est un bon moyen de faire des économies parce que bah, acheter, plus faire appel à des professionnels du coup, que vous ne connaissez pas, ça peut alourdir la note. Donc, si vous avez la possibilité vous-même ou avec des gens que vous connaissez de faire les travaux du coup à moindre coût en termes de main-d'œuvre avec votre famille et vos amis, c'est quand même quelque chose à prendre en compte pour les points positifs.
Yes, donc là pour l'achat-revente, il n'y a pas trop de concurrence, enfin, la concurrence n'est pas encore arrivée, mais voilà, comme je dis, c'est vraiment quelque chose qui demande de l'expérience et beaucoup de temps également, donc ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère et se lancer là-dedans, comme ça, sans trop s'y connaître. Ensuite, on va voir la division, donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'en ai un petit peu parlé. Par exemple, vous achetez un appartement de 100 mètres carrés, vous le divisez en deux et vous faites deux appartements de 50 mètres carrés, et après, soit vous décidez de les louer, soit vous décidez de les revendre, parce qu'en fait, c'est... Alors, je ne sais pas trop comment expliquer, mais en fait, quand vous avez des petites surfaces, c'est plus rentable que ce soit la location ou la vente. C'est-à-dire que vous avez deux studios, enfin, deux T2 de 50 mètres carrés, vous allez avoir plus de loyer à la location qu'un T5, par exemple, de 100 mètres carrés, si vous faites de la location classique.
Oui, voilà, oui.
À la limite de la courte durée. Et également, à la revente, si vous avez deux T2 de 50 mètres carrés, vous allez en tirer plus que un T5 de 100 mètres carrés. Par exemple, si on prend l'exemple de Saint-Etienne, je rappelle, c'est la ville où j'ai investi, un T5 de 100 mètres carrés, 100 000 euros, vous en avez un. Deux T2 de 50 mètres carrés, bah, vous peut-être les vendre 55 000, 60 000 euros. Quoi. Donc, c'est possible de faire une plus-value. Après, je donne des chiffres comme ça à la louche, mais la division, c'est clairement un bon moyen aussi de faire de l'argent, que ce soit pour revendre ou pour louer.
C'est ça, vous faire une plus-value par rapport à l'investissement de départ.
Yes, et ensuite on va voir tout ce qui est bureaux et locaux commerciaux. Donc ça c'est autre chose encore, c'est-à-dire que là on va s'orienter vers les professionnels, on va acheter pour louer à des entreprises, à des commerçants, etc. C'est une stratégie qui peut être intéressante, il y a une rentabilité qui est souvent plus élevée que dans l'immobilier à titre privé pour les particuliers, mais c'est encore une fois quelque chose que je ne recommande pas aux débutants. Puisque là, vraiment, l'emplacement, c'est très, très important. Alors déjà, l'emplacement, c'est le critère numéro un en immobilier, que ce soit à titre privé, à titre professionnel. Mais là, sur les bureaux et locaux commerciaux, l'emplacement, c'est vraiment le truc que si vous plantez, c'est mort pour votre investissement. Et donc voilà, donc c'est quelque chose que je ne vais pas recommander aux débutants.
Et même le business qui va s'installer aussi, hein, si c'est un coin paumé que vous voyez qu'il y a, je sais pas, un coiffeur, une coiffeuse qui vient s'installer, mais vous savez que ça ne marchera pas, bah, malheureusement, bah, lui refuser parce que bah, si elle n'a pas de client, est-ce qu'elle va pouvoir payer son loyer tout simplement, quoi.
Bah après, on a tout ce qui est les petits trucs, les petits commerces dans les petites villes, par exemple un petit village. Il y a une boulangerie. Dans tous les petits villages, il y a des boulangeries. Vous achetez un petit local, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, dans un village un peu paumé. Vous le payez 30, 40 000 euros. Vous mettez un boulanger, il veut s'installer, il monte sa boulangerie. Voilà, ça peut être une stratégie qui est plus rentable que l'immobilier à titre privé. Mais encore une fois, vraiment, ça demande beaucoup de formation. Alors déjà, l'immobilier, en règle générale, ça demande de la formation. Mais alors là, il faut beaucoup de formation également. Il faut connaître le secteur, il faut connaître la demande, il faut connaître un petit peu les concurrents, etc. Là, c'est vraiment une étude de marché qu'il faut faire et c'est plus facile de faire des erreurs là-dessus. Mais ça peut être une stratégie qui est très, très intéressante. Donc voilà, il faut juste se former et connaître
le point. L'exemple qu'on vous dit, c'est quand vous voulez vraiment tout gérer, parce qu'il reste toujours la possibilité de, avec une agence, enfin voilà, avec les professionnels qui gèrent, ça fait un investissement.
De se faire accompagner également.
Ça fait un investissement, mais si vous n'y connaissez pas et que vous dites que ce n'est pas grave, une partie de l'argent peut partir là-dedans, c'est aussi cette solution-là. Évidemment, ce n'est pas une obligation de tout gérer. Au contraire, ça peut être une preuve. Quand vous commencez, il vaut mieux se faire accompagner, quitte à petit à petit, quand vous prenez de l'expérience, faire tout vous-même. C'est une possibilité.
Exactement, c'est très, très important de se former. Et si on a peur de se lancer ou si on pense à une erreur, faites-vous accompagner. Vraiment, c'est très, très important. Et après, comme Théodore l'a dit, bah, vous êtes là, vous décidez de continuer tout seul. C'est-à-dire, vous prenez votre envol. Et une fois qu'après, vous avez l'expérience, que vous avez la théorie, la pratique, vous avez beaucoup moins de chances de faire une erreur et donc de perdre de l'argent. Du coup, je te propose qu'on passe au point suivant, les différents régimes.
Vas-y, dis-nous tout. Quels sont-ils ?
Yes, alors... J'aurais pas le temps d'approfondir là-dessus puisqu'il y a énormément de choses sur les régimes. C'est très, très complexe. Là, encore une fois, pour moi, c'est la partie la plus importante d'un investissement immobilier, puisque comme je t'ai dit, un mauvais régime qui ne correspond pas aux objectifs de la personne, ça va totalement foirer tout, la rentabilité, et donc il va payer un max d'imposition.
De toute façon, on rappelle
Qu'est-ce
cette
qu'on va
émission,
voir?
on vous donne des points d'entrée. Après, vous cherchez soit auprès de professionnels ou soit Google est votre ami, comme on a tendance à l'entendre un peu partout. Voilà, on vous donne les termes, voilà, pour qui ça correspond. Et après, le pour aller plus loin, c'est à vous de le faire. Alors, dis-nous tout, quels sont en immobilier, c'est quoi un régime et à quoi ça correspond et les différents existants?
Yes. Bah, c'est comment l'acheteur va choisir en fait d'exploiter son bien. Déjà, ça va jouer là-dessus. Donc, si on va avoir le régime entre guillemets sur les revenus fonciers. Après, on va voir tout ce qui est au. Il y a, en fait, il y a plusieurs choses. Il va y avoir tout ce qui est régime à titre privé et régime à titre professionnel, parce qu'on va voir qu'on peut créer des sociétés aussi pour acheter des biens immobiliers. Les régimes, c'est assez complexe. C'est pour ça que vraiment, j'insiste sur le fait que c'est très important de bien se renseigner sur Internet, ou si on n'a pas envie d'aller voir quelqu'un, ou le mieux, c'est vraiment de se faire accompagner quelqu'un qui est calé en fiscalité, un gestionnaire patrimoine, un comptable, un expert comptable, comme vous voulez, mais renseignez-vous, ou même un avocat fiscaliste, des choses comme ça. Donc, on va avoir tout ce qui est à titre privé, on va avoir les revenus fonciers avec plusieurs choses. Donc là, on va avoir le réel et le forfait. Donc, c'est-à-dire qu'au forfait, on va pouvoir abattre un certain montant de son loyer. Et ensuite, on payera des impôts sur le loyer restant. Et ensuite, on aura le réel, c'est ce qui va permettre de déduire toutes les charges. Donc là, c'est pour ceux qui ont beaucoup de charges. Ensuite, on va avoir tout ce qui est le LMNP. Donc ça, c'est très, très, très connu. C'est loueur meublé non professionnel. Donc là, ça va être pour ceux qui vont acheter et louer en meublé, par exemple les meublés étudiants, ou meublés pour d'autres personnes, hein, je prends des étudiants comme ça. Donc là, c'est un peu une niche fiscale pour moi, et c'est quelque chose qui, à terme, risque de disparaître, parce qu'en fait, on a un abattement de 50% là-dessus. Tu es là.
Oui, ne t'inquiète pas. Moi, je bois. Moi, c'est. Ouais,
Excuse-moi.
vous savez, moi, cette émission, j'accueille les professionnels et je suis un peu comme vous qui l'écoutez. Je bois les paroles, parce que même moi, j'en apprends. Je suis le candide et j'en apprends tous les jours et en immobilier, grâce à toi, en tout cas, pour l'instant, j'en apprends énormément. Et on redonnera les informations d'ailleurs pour toi, Hugo, hein, pour te retrouver sur les réseaux en fin d'émission. Si vous voulez faire affaire directement avec Hugo, n'hésitez pas. Hein, voilà, au contraire, hein, il sera là pour répondre à vos questions. C'est à ça que servent les professionnels du domaine.
Yes, donc on a le LMNP, comme je disais, donc très très intéressant, puisque là, on va pouvoir déduire 50% de son loyer. Il y a beaucoup de personnes qui en LMNP arrivent à descendre à 0 euros d'impôt par mois. Donc c'est
Ah
vrai que
oui.
c'est clairement le LMNP, c'est très très puissant pour l'imposition. C'est assez facile, on va dire, de se rapprocher de zéro, voire de ne pas payer d'impôt en LMNP. Ensuite, on va voir le LMP, donc là c'est loueur meublé professionnel. C'est la suite du LMNP, donc quelqu'un qui va enchaîner des investissements et qui va se retrouver avec beaucoup de loyers. Je vous laisserai chercher les montants, les seuils. De toute façon, ça change régulièrement, ça, la fiscalité. Il faut se tenir au courant, puisque bah, souvent, il y a des modifications sur les paliers, les bénéfices, etc. Ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder
Il faut tout le temps
fréquemment.
se renseigner, les lois et tout, hein, ça bouge régulièrement, comme tu le dis.
Exactement. Donc le LMP, donc c'est la suite de LMNP. Quand vous avez beaucoup d'appartements, que vous faites beaucoup de loyers, si vous dépassez un certain seuil, vous êtes recatégorisé en loueur meublé professionnel. Et donc là, l'imposition change, même si ça reste intéressant, mais beaucoup moins quand même que le LMNP. On va pas se cacher, le LMNP, c'est quand même the régime, quoi. Pour l'investisseur, il y en a beaucoup qui l'utilisent. Et vraiment, j'insiste, profitez-en, puisque bah, c'est pas sûr que ça dure, puisque là, le gouvernement fait beaucoup de réformes et ça risque de bouger là-dessus.
Ça peut rapidement changer. Donc,
Ouais.
quand tu as une affaire en ce sens, que c'est une affaire que ça existe, ce régime, alors il faut pouvoir en profiter au bon moment.
Yes, exactement. Ensuite, on va avoir tout ce qui est les sociétés. Là, on va pouvoir avoir la SARL de famille, donc concrètement, bah, en famille, où l'imposition sera assez intéressante. Après, on va avoir les SCI, donc ça, très très connu de la part des personnes, enfin, de tous ceux qui vont nous écouter. La SCI, je pense que ça parle à tout le monde quasiment, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément compris de la part de tout le monde.
Ça correspond à quoi, juste en une phrase, une SCI, pour ceux qui juste se dire, tiens, c'est quoi ce mot?
SCI, c'est une société civile immobilière, donc c'est une société qui va permettre à n'importe quel investisseur à titre privé de détenir un bien, un immeuble, un appartement, un local commercial, etc. Voilà, tout d'accord, simplement. Et la SCI, il y a deux types de SCI. Donc là, vous allez avoir la SCI à l'IR, à l'impôt sur le revenu, donc qui est dite transparente. C'est-à-dire que les revenus locatifs de votre SCI à l'IR vont être mélangés à vos revenus professionnels. Donc vous êtes salarié, vous avez un CDI, vous gagnez 2000 euros par mois. Vous achetez un appartement en SCI à l'IR qui vous rapporte 500 euros de loyer par mois. Bah, vous allez avoir 2000 euros plus 500 euros de loyer. Et donc, votre imposition, elle sera basée là-dessus.
D'accord.
Donc, elle est dite transparente. La SCI à l'IR, pour moi, c'est juste intéressant pour si on achète en couple ou à deux, pour ne pas se retrouver en indivision, puisque l'indivision, pour moi, je déconseille vraiment. C'est le pire régime qui puisse exister. Pour la bonne et simple raison que l'indivision, c'est le régime... Bah, par exemple, vous êtes marié, vous achetez une maison ensemble, vous ne faites pas de SCI, vous achetez en indivision. C'est-à-dire que chacun a 50% de la maison. Le problème, c'est que si jamais vous divorcez, qu'il y a une mésentente, etc., bah, l'indivision, pour résoudre tout ça, c'est le bordel. Dans le sens où si une personne n'est pas d'accord, bah, rien ne se fera. Alors qu'en SCI, vous allez pouvoir vendre vos parts, par exemple. Si jamais, si jamais vous êtes en couple, vous êtes marié et que vous venez à divorcer, on reprend cet exemple, si jamais vous n'entendez pas, bah, la SCI, il y a toujours moyen de vendre les parts, de vendre ses parts.
Voilà, ça vendre ça donne une solution en cas de pépin, quoi.
Exactement. C'est-à-dire que l'indivision, si vous avez une maison, vous ne pouvez pas vendre juste 50% de la maison en indivision. Il faut vendre toute la maison. Et si un des deux n'est pas d'accord, bah, ça va bloquer. Enfin, il va y avoir des procédures avec des avocats, ça va être très long. La SCI, demain, vous êtes avec votre femme, vous divorcez, vous ne voulez pas vendre votre part, mais votre femme veut vendre ses parts, bah, elle peut vendre 50% de la maison. Et vous pouvez rester propriétaire de 50% de la maison également. Donc, c'est à ça que sert majoritairement la SCI à l'IR. La SCI, que ce soit à l'IR ou à l'IS, ça reste un très bon outil de transmission pour le patrimoine également. Donc ça, je vous laisserai regarder un petit peu parce qu'on n'aura pas le temps de le détailler. Et concrètement, les SCI à l'IS, qu'est-ce que c'est ? Bah là, c'est une SCI à l'impôt sur les sociétés. Donc là, c'est totalement différent de vos revenus à titre privé. C'est-à-dire, on reprend l'exemple, vous êtes CDI, 2000 euros par mois. Vous avez 500 euros de loyer, bah vous allez avoir 2000 euros qui vont être imposés sur votre salaire. Et vous allez avoir à côté l'impôt sur les sociétés, donc qui est de 15%. Et c'est sur les bénéfices. Donc c'est-à-dire que l'avantage de la SCI à l'IS, c'est que vous allez pouvoir déduire tous vos frais. Vous allez amortir votre bien, vous allez enlever le coût de la taxe foncière, toutes les charges, vous allez tout déduire. Et à la fin, ce qui reste dans le positif, vous sera imposé à 15% sur les bénéfices.
L'inconvénient, donc il y a un vrai avantage.
Oui, alors, avantage, qui dit avantage dit inconvénient. Comme d'hab, on le rappelle, il n'y a pas de solution full avantage et sans inconvénient. La SCI à l'IS, c'est une stratégie qui est très bien pour mettre en place des super systèmes pour économiser un max d'impôts. Mais c'est une stratégie qui est à mettre en place uniquement si vous avez dans un optique de long terme, c'est-à-dire de conserver les biens. C'est pas quelque chose à faire, une SCI à l'IS, c'est pas quelque chose à faire si vous voulez faire de l'achat-revente, si vous voulez garder les biens à court terme, etc. Puisque l'inconvénient de la SCI à l'IS, je vous laisserai vous renseigner, si vous revendez au bout de 10 ans, bah en fait, votre bien est amorti sur 10 ans. Donc derrière, vous allez prendre un impôt sur les plus-values qui va être immense. C'est-à-dire que vous avez un bien à 100 000, vous l'amortissez sur 20 ans. Chaque année, il y a 5 000 euros qui va être amorti. Si vous le vendez au bout de 10 ans, il y a 50 000 euros d'amorti. Donc la valeur nette comptable, ce qu'on appelle lors de la revente d'une SCI à l'IS, ça sera 50 000 euros. Ça veut dire que si vous revendez 120 000, théoriquement, vous avez acheté 100 000, vous faites 20 000 donc de plus-value, bah, le fisc il va prendre en compte 70 000, vu que vous avez déjà amorti 50 000. Il va prendre les 50 000 d'amorti plus les 20 000 de bénéfices. Donc, vous allez payer l'impôt sur la plus-value, non pas sur 20 000,
mais sur l'amortissement plus la plus-value.
Ouais, voilà. Ouais. Exactement, tu as tout compris. Donc, c'est pour ça. Et il y a une exonération donc, de cet amortissement au bout de 28 ans de détention. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que la SCI à l'IS, c'est vraiment pour une stratégie de long terme, pour quelqu'un qui veut Oui, très long terme, effectivement. Mais par contre, c'est une stratégie qui peut être très, très puissante, notamment si vous avez une société avec le régime Murphy Holding. Donc, vous mettez votre société commerciale d'un côté, vous la reliez à une holding et vous reliez la holding à votre SCI. Et dans ce cas, vous allez pouvoir transiter des fonds facilement et vous allez pouvoir éviter pas mal d'impôts sur les sociétés, pardon. Également, voilà, j'aurai pas le temps d'entrer dans les détails parce que c'est une stratégie qui est très très compliquée à mettre en place. Là, vraiment, il faut se faire accompagner par un comptable ou un expert comptable. Mais c'est une stratégie qui peut être très très intéressante si vous avez votre société et qui peut vous permettre d'économiser un maximum d'impôts. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu des différents régimes. J'en ai peut-être oublié honnêtement, mais j'ai fait les principaux.
Les plus connus et ceux qui sont le plus utilisés, quoi.
Et ceux qui sont le plus utilisés. Voilà, mais j'insiste sur le fait qu'il faut se renseigner et il faut vraiment maîtriser cette partie, puisque c'est si le régime ne correspond pas avec vos objectifs et avec votre. Enfin, il n'est pas en adéquation avec ce que vous faites de votre parc immobilier, bah c'est fini. Vous allez passer d'un bon investissement à un mauvais investissement.
C'est un petit peu tous les points à prendre en compte. C'est pour ça que c'est très important de se faire accompagner. Par quelqu'un de professionnel, parce que vous voyez, c'est pas juste je vois quelque chose en vente et je propose, enfin voilà, c'est pas en deux clics. Ça peut se faire en deux clics, mais justement le problème c'est que si vous prenez pas en compte tout ce qu'il y a derrière, ce qui ne se voit pas et ce qu'on ne sait pas forcément parce qu'on ne nous le dit pas, eh bien vous pouvez vite avoir soit ne pas être autant bénéficiaire à la fin par rapport à votre projet, ou alors que ce soit pire que ça, que vous ne retombiez pas du tout sur vos jambes à la fin. Donc le but c'est que ce soit le plus optimisé possible, parce que c'est un investissement financier et en termes de temps, autant que à la fin du parcours, on soit heureux et content de cet investissement.
Yes, bien évidemment. Du coup, je te propose qu'on passe au dernier point, comme ça on clôture cet épisode.
On fait un dernier point en quelques lignes, on était dans un livre, un roman. Yes. Donc l'enchaînement des investissements, on clôturera là-dessus les amis. Donc comment enchaîner, tu donnes les points clés, comme ça après les gens ils t'appelleront pour... Mais comment vraiment savoir? Parce que le but c'est que vous appelez Hugo après pour travailler. On a tout prévu, voilà, on vous donne des points d'entrée, des petites clés, après c'est à vous de faire votre chemin les amis.
Yes, donc pour enchaîner les investissements, ça va rejoindre un petit peu sur comment obtenir un prêt dont on a parlé dans le précédent épisode. Donc là tout simplement, il va falloir garder en tête que maintenant vous n'êtes plus une simple personne lambda, vous êtes un investisseur, vous avez de l'argent des banques entre les mains. Elle, ce qu'elle veut la banque, c'est qu'elle soit remboursée, et pour ça elle va devoir vous allez devoir lui prouver que vous êtes quelqu'un qui va rembourser les prêts, quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui sait gérer l'argent et quelqu'un qui sait gérer son patrimoine. Donc pour ça, qu'est-ce que ça va être? Ça va commencer par un point déjà: avoir un investissement rentable. Faut pas vous planter sur le premier investissement. Faut que vous ayez quelque chose de rentable qui tous les mois vous permette de dégager de l'argent. Déjà ça, c'est un point essentiel. De deux, il va falloir faire attention à son taux d'endettement. Malheureusement, on n'est plus dans les années 2000 ou même 2010 où on pouvait emprunter avec beaucoup plus de facilité et beaucoup d'encours en banque. J'ai déjà vu des personnes avec plusieurs millions d'encours en ayant 1500 euros de salaire. Maintenant, il faut se dire que ça, c'est un temps qui est révolu.
Ça n'existe plus. Tu peux redire un peu le taux d'endettement actuellement par les banques? Il est combien?
C'est 35%.
Début 2022, maintenant. Il est de ce taux-là.
Ouais. Alors, par contre, ça, je ne le dévoilerai pas là, puisqu'il faut quand même que je garde une part de mystère.
Évidemment.
Mais j'ai une stratégie pour pouvoir enchaîner des prêts plus facilement. Et on va dire que vous puissiez avoir un encours en banque qui est assez satisfaisant. J'ai le cas pour un collègue avec qui on a mis ça en place. Quelqu'un qui ne gagne pas beaucoup, qui a 1400 euros net par mois. Donc, c'est à peu près monsieur tout le monde. Quand je veux dire, c'est un salaire qui est atteignable, on va dire. Et il a quand même quasiment 700 000 euros d'encours en banque. Donc, ce n'est pas rien, sachant que si on fait le calcul, 700 000 euros, ça dépasse largement les 35% de taux d'endettement. Donc voilà, petite parenthèse, donc les personnes qui seront intéressées au PIA.
Voilà, vous contactez, on rappellera les liens, les informations en fin d'émission, mais voilà, ça rappelle toujours que s'il y a des professionnels qui ont fait des études, se sont renseignés, en tout cas travaillent dans le domaine, c'est pas pour rien.
Yes, et donc ça, et après, qu'est-ce qui va être aussi une bonne stratégie pour enchaîner les investissements? Ça va être tout ce qui est les impôts, les impôts.
On y revient toujours aux impôts, de toute façon, dans toutes les discussions, il y a les impôts dedans.
Ça m'a traumatisé, les impôts, ça traumatise tout le monde, de toute façon, les impôts.
Effectivement.
Mais c'est acheté en société, comme je disais, avec la SCLIS, puisque là, on ne parle plus de revenus à titre privé, mais on parle de revenus professionnels. Donc là, on va marcher en société, c'est-à-dire que si on achète un immeuble, par exemple, en SCIBS, donc en impôt sur les sociétés, et bien là, les revenus, ils vont être donc dans la catégorie des sociétés. Donc, comme toute boîte, on va emprunter comme avec une boîte. Qu'est-ce qu'elle va demander la banque? Elle va demander 3 ans de bilan. Donc, des fois, elle peut faire l'impasse, elle peut demander que deux, etc. Mais globalement, elle va regarder le bilan de vos sociétés. Elle va voir si la société, elle fait d'argent. Donc, on en revient au premier point,
Oui.
avoir un investissement rentable. Si vous avez un investissement rentable, tous les mois, vous allez dégager donc ce qu'on appelle le cash flow, dont on a parlé dans le précédent épisode. Et tous les mois, vous allez avoir un peu plus d'argent, un peu plus, ça va monter. Donc, qu'est-ce qu'elle va voir la banque? Elle va regarder vos comptes de société, elle va voir que l'argent monte sur les comptes. Elle va se dire, OK, feu vert, let's go. Je peux lui prêter pour un prochain investissement. Donc ça, acheter en société, c'est quelque chose qui peut être très puissant. Après, il y a quelques banques qui malheureusement font pas le distinguo, mais il y en a encore pas mal qui le font. Donc voilà. Donc je pense que j'ai à peu près tout dit. Encore une fois, j'ai peut-être oublié quelque chose,
Oui,
mais
mais
si les
tu as
personnes
deux
sont
les
intéressées,
principales,
voilà.
ce qui est sur le devant de la scène, on va le dire.
Yes, de toute façon, si les personnes sont intéressées, elles peuvent me contacter, il n'y a pas de
Et
souci, parce
justement,
que moi,
comment te
j'adore
contacter?
parler d'immobilier, moi, c'est ma passion.
Ah, mais c'est ça, c'est quand je le dis, on l'a dit dans une autre émission, hein, quand on fait de sa passion son métier, il n'y a rien de tel. Et d'ailleurs, tu parlais d'une précédente émission où on parlait d'immobilier, mais il y en a une autre encore, tu es là tout le temps, tu squattes ce studio virtuel
Ouais, c'est ça.
tout le temps, Hugo. Une émission qui parlait de toi, comment tu y es venu, avec les études ou autre, comment juste tu es venu dans ce milieu de l'immobilier, de l'investissement et un petit peu tout ce qui y est lié. Donc, n'hésitez pas à aller l'écouter, elle est disponible. Je rappelle, vous cherchez podcast pour aller plus loin et le plus, c'est le symbole plus si vous voulez chercher ça sur Google. Mais comment on te retrouve toi pour te poser des questions et faire, je dis faire affaire avec toi parce que dans tous les cas, toi, tu y passes du temps et le temps, c'est de l'argent, vous connaissez, mais malheureusement, c'est vrai. Vous connaissez ce terme.
Yes. Bien sûr. Du coup, on va voir sur Instagram, donc ça sera Hugo underscore, donc tiré du 8 CS Consulting. Pareil sur Facebook. Et vous avez toujours mon site web. Si vous voulez prendre rendez-vous, il y a un calendrier pareil où c'est hugo.cs-du6c.fr. Donc vous aurez accès à déjà pas mal d'informations. Et voilà, il y a mes coordonnées. On peut prendre rendez-vous. Et moi, il n'y a pas de souci. Je discute avec tout le monde. Je suis passionné par ça. Il faut savoir que voilà, je ne prends pas d'honoraires pour discuter avec vous. Hein, c'est gratuit. Hein, donc, c'est avec plaisir
C'est
que
ta
je vous
passion. De toute
recevrai.
façon, tu racontes un petit peu comme tu raconterais une histoire. Un petit peu là, on vous a raconté
C'est ça,
l'histoire de
voilà.
l'immobilier.
Exactement.
Ça passe par là. Hein. Et je rappelle aussi que voilà, c'est pas forcément. N'ayez pas peur. Voilà, on est là pour faire des points d'entrée. Chaque sujet, hein, l'immobilier, l'investissement, c'est des choses qui peuvent faire peur. Et on se dit non, ça va me prendre trop de temps ou autre. Quand on prend le temps de s'y intéresser, comme plein de sujets. Ça devient plus simple qu'il n'y paraît, mais c'est comme beaucoup. Donc, n'hésitez pas à aller plus loin. C'est un peu le but de cette émission. Donc,
Yes.
merci à toi. D'ailleurs, tiens, si, on ne l'a pas évoqué, je crois, dans l'autre émission, mais on va le dire là. Une petite chaîne YouTube, tu me disais que tu en connaissais une pour ceux
Ah
qui sont
oui,
plus
bien sûr.
regardés ou autres, parce que YouTube, ça marche très bien pour ça, pour une chaîne YouTube un peu dédiée à l'immobilier. Qu'est-ce que tu pourrais me
Ouais, bien
conseiller?
sûr. Du coup, je t'en conseille une, enfin deux. Donc, vous aurez toujours la chaîne Alex et Flo CS Consulting. Donc ça, c'est une chaîne YouTube gestion de patrimoine où vous allez pouvoir retrouver tout ce qui touche la gestion de patrimoine. Et pour l'immobilier, si vous voulez vraiment vous former avec beaucoup de profondeur, je vous conseille vraiment la chaîne Vendeur de vérité sur YouTube où vous allez avoir toutes les formations gratuites et pas besoin de payer des 997 ou 1997 comme on voit sur Internet, quoi.
Tout ça en tout cas, et comme les liens en rapport avec Hugo, ce sera dans la description de ce podcast. En tout cas, je vous remercie à tous et encore merci à toi, Hugo, de venir parler
Merci.
de ton métier et de ta passion. C'est la même chose. Quel vénard tu fais! Merci
Merci.
à tous, merci à
Merci à
toi.
toi.
On se dit à une prochaine fois pour une nouvelle émission de Pour aller plus loin.
Retrouvez Pour aller plus loin, votre podcast présenté par Théodore, une prochaine fois pour un nouveau sujet.